Alors, je vais me retourner vers Claire Bolduc, qui est là. Vous allez lui trouver un défaut, Antoine Ruffnac, c'est qu'elle est responsable de solidarité rurale au Québec. Et le Québec, pour vous, c'est quand même un pays qui a été créé par des ressortissants de Saint-Malo, avant peut-être ceux du Havre. Mais bon, ça, c'est un épisode tout à fait anecdotique de l'histoire. Claire, c'est d'abord très, très sympa d'être des nôtres aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le fond, le Québec a émergé un peu dans l'histoire universelle le jour où sont arrivés des paysans français qui avaient quelques difficultés peut-être, sûrement même de survivance dans leur terre d'origine, et qui ont trouvé l'embouchure du Saint-Laurent. Ce qui fait que vous êtes un pays qui s'est construit à partir finalement de l'apport de la mer. Sur Ruffnac, il y a là quand même quelque chose qui doit créditer dans votre cœur le Québec. Et c'est un pays... Quand nous avons parlé de ce qu'était le mouvement Solidarité Rurale, moi, il y a une chose qui m'a frappé énormément, c'est que quand on parle de la ruralité chez nous, spontanément, on pense à un espace géographique, territorial. Et quand vous parlez de la ruralité, vous évoquez un milieu de vie. Ce n'est pas la dimension d'un sol qui serait anonyme, c'est un sol humanisé. Qu'est-ce qui fait finalement l'originalité de la ruralité au Québec ? Après, on va voir un peu ce que vous pouvez nous apporter en éléments de comparaison ou de stimulation.
Je vais d'abord, bonjour, je suis très contente d'être ici et je suis aussi émue parce que l'organisation que je préside, Solidarité rurale du Québec, et on m'a dit qu'il fallait que je parle plus lentement, Solidarité rurale du Québec est née à peine quelques mois avant Sol et Civilisation, les 3, 4 et 5 février 1991. C'est le cri du cœur des ruraux, un peu comme celui des paysans en France. C'est le cri du cœur des ruraux qui souhaitaient qu'on respecte leurs différences, qui exprimaient leur droit de vivre dans cette différence-là et leur droit d'être prospères à même cette différence-là. Pour répondre à votre question, je vais commencer par faire un peu d'histoire. D'abord, le Canada et le Québec, ce ne sont pas des paysans qui sont venus en premier, mais des marchands, des explorateurs et des marchands. Et l'économie des nouveaux pays, qui s'appelait d'ailleurs la Nouvelle-France, l'économie a reposé sur ces ressources naturelles qui étaient tout sauf agricoles. Les ressources forestières, les ressources halieutiques et cynégétiques, les ressources forestières et beaucoup plus tard, les ressources minières. On a découvert l'importance d'avoir des paysans, d'avoir des agriculteurs dans nos communautés à partir du moment où l'approvisionnement alimentaire ou les guerres nous ont mis face, ont mis mes ancêtres, je suis vieille mais pas à ce point-là, ont mis mes ancêtres face au fait qu'il fallait qu'ils se nourrissent et que la chasse et la pêche ne pouvaient pas assurer une saine alimentation à long terme. Et là, se sont développées des activités agricoles, mais les collectivités, les communautés qui se sont d'abord établies étaient des communautés commerçantes. Montréal, Québec et ensuite Trois-Rivières, une ville qui est située juste entre les deux, qui était, elle, industrielle. On transformait, on faisait de la transformation, notamment des minerais, parce qu'il y avait un potentiel énergétique associé aux rivières. Quand on parle de la naissance de Solidarité rurale du Québec, nous, on a vu le jour dans un contexte où il y avait on vivait en Amérique la libéralisation des marchés avec les États-Unis. Libéralisation des marchés, c'était l'accord de libre-échange américain. Et c'était sous-jacent à ce qu'allait devenir la mondialisation et la globalisation. Et à l'époque, ce qu'on entendait tout de suite après les mots mondialisation et globalisation, c'était consolidation, rationalisation. Dans des communautés qui constituaient depuis toujours des milieux de vie industriels, agricoles, forestières, côtières, associées aux pêches, parfois culturelles, parfois touristiques, comme c'est le cas de Charlevoix, dans ces communautés-là, les mots rationalisation, consolidation, ça venait frapper de plein fouet les communautés rurales. Et ça rejoint le cœur de tout l'agriculture. C'est l'UPA qui avait décidé d'en appeler d'états généraux de l'agriculture parce qu'on perdait nos fermes et que ça avait un impact majeur sur la dynamique de l'ensemble du Québec. Et en préparation des états généraux, il y a eu une grande consultation. Jacques Proulx, que je voyais ce matin dans le film de la marche des Terres de France, le dimanche des Terres de France, qui était le leader de Solidarité rurale, était aussi le leader du monde agricole et partit à la rencontre des villageois, de tous les ruraux. Et là, il s'est aperçu que ce qui faisait mal à l'agriculture, c'était vrai aussi en forêt, c'était vrai aussi en milieu minier, c'était vrai aussi dans les pêches, c'était vrai aussi dans les services, c'était vrai aussi dans le commerce. On s'est aperçu que pour sauver un village, ça prend tout un village. C'est comme ça qu'on a constaté que le village n'est pas d'abord un milieu de fourniture de ressources, si alimentaire soit-elle. Le village est d'abord et avant tout un milieu de vie, un milieu que les gens choisissent. À l'époque, on l'a vécu, l'exode rural, on l'a vécu, mais on l'a vécu en phase un peu entrecoupé. 1929, il y a eu une crise assez importante, financière encore une fois, c'est la bourse. Au Québec, il y a eu un choix de ramener les citoyens qui étaient des citadins, de les ramener dans les campagnes. On ramenait les gens dans les campagnes, on appelait ça la période de la colonisation. Et jusque dans les années 70, le ministère qui allait devenir, au début des années 60, le ministère de la colonisation et de l'agriculture, a porté le nom de colonisation. Ensuite, ministère d'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation. Donc, dans les années 30, on ramenait des gens dans les communautés rurales qu'on ouvrait. Je vis dans un territoire neuf, l'Abitibi-Témiscamingue a tout juste 100 ans. J'habite la plus vieille ville du Témiscamingue de cette région-là, qui a 125 ans. Ce sont des territoires neufs qu'on a voulu fermer dans le milieu des années 80, qu'on a voulu fermer pour ramener les gens dans des centres urbains. Et les collectivités se sont levées pour dire non, ce n'est pas un espace de production, c'est un milieu de vie. J'habite ici, je vis ici. J'ai mes racines ici, peut-être qu'elles ne datent que de 20 ans, mais c'est chez moi maintenant. Et c'est un milieu de vie. Solidarité rurale, on s'est donc inscrit en militantisme, en mobilisation des citoyens pour redonner confiance aux citoyens dans leurs moyens. Les citoyens ruraux qui vivaient dans des villages qu'ils aimaient. Ce n'était pas que des agriculteurs, ce n'était pas que des forestiers, ce n'était pas que des mineurs, c'était aussi des artistes, des artisans, des politiciens, c'était aussi des créateurs. Il y a quand même beaucoup d'innovations au Québec qui émanent du Québec, qui sont issues des communautés rurales. Le plus connu actuellement, c'est probablement le Cirque du Soleil. Redonner confiance, d'abord, que les gens eux-mêmes aient confiance en eux, redonner confiance dans la possibilité que ces milieux-là qu'ils habitent, que ces milieux-là qui les habitent, les milieux nous habitent, ils ont un avenir. Ça permettait aux ruraux d'imposer le respect. C'est la grande différence, je pense, qu'on peut voir dans la façon d'aborder les questions on ne les perçoit pas, nos milieux, bien que certains de nos dirigeants le fassent, bien que certains de nos dirigeants les voient comme ça, et j'entends l'écho du plan Nord, nos milieux ne sont pas que sources et ressources. Ils sont des milieux de vie. On les habite et ils nous habitent. Ces milieux-là nous inspirent. Dans l'action de solidarité rurale, on a porté une action qui s'est inscrite d'abord dans l'observation du fonctionnement des milieux. Pour être capable de détecter ce qui est fort dans un milieu et pourquoi, avec si peu de moyens, quelquefois des milieux font des miracles. On a appelé cette activité-là « Village prospère ». Village prospère, on se rendait, puis je le dis « on », j'étais administratrice de solidarité rurale à l'époque, on se rendait dans les villages, quelquefois un village qui avait 500, 600 habitants, qui était un merveilleux endroit de vie, puis on allait voir qu'est-ce qui faisait que cet endroit-là était très prospère. Et on allait tout à côté dans un village qui comptait 3000 de population, qui allait très mal. Ce qu'on a vu, c'est que des fois, c'est des ressources, des fois, c'est des idées, des fois, c'est un paysage particulier. Mais à tout coup, ce qui fait la vitalité, ce qui rend la vie possible dans un milieu, c'est le leader, un leadership. Et ce leader-là, il est peut-être l'élu local, mais il peut être aussi un artiste, il peut être aussi un homme d'affaires, ou une femme d'affaires, une directrice d'école, et on l'a vu. Mais c'est une personne qui a à cœur le développement de sa communauté, de son village, qui alimente l'inventivité de ses concitoyens et qui fait en sorte qu'ensemble, ils peuvent faire la différence, ils peuvent vivre de cette différence, ils peuvent l'exprimer, ils peuvent prospérer.
Vous savez, je me suis demandé toute la matinée, quand vous avez écouté un peu ce que nous avons raconté, à la fois sur la fin de l'exode rural, le commencement de l'étalement urbain, vous avez pressenti un peu dans ces mondes qui se retrouvaient dans des conditions un peu différentes, des tensions qui existaient. Je dois dire, mais vous êtes posé la question, mais où suis-je tombé? Alors, il est vrai qu'il y a des différences quand même très, très évidentes. N'importe quel habitant du monde rural est à quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres d'une ville. Chez vous, une communauté rurale, parfois pour accéder à des services de la ville auxquels nous essayons d'avoir un recours quotidien, c'est quand même de faire combien? 150, peut-être 200, facilement 200 kilomètres. Il y a quand même une occupation de l'espace dans votre réalité qui est très différente de nos quelques millénaires, en quelque sorte, d'occupation du sol. Mais ça a dû quand même vous laisser quelques idées étranges. Alors, cette nouvelle France là, qui vient regarder la vieille France d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ressent?
J'ai entendu ce matin la nouvelle France d'aujourd'hui. En fait, je suis très fière d'être québécoise. Nos racines françaises sont restées très fortes. Et d'abord, vous dire que le Québec, la moitié ou près de la moitié de la population habite Montréal et l'agglomération métropolitaine. C'est assez unique. C'est assez unique au monde. On a ça aussi en Colombie-Britannique, où la moitié de la population de la Colombie-Britannique, à l'autre bout du Canada, habite Vancouver et l'agglomération métropolitaine de Vancouver. Ça veut dire qu'il y a de grandes distances à parcourir quand on veut fréquenter nos voisins, voire nos cousins. Ce que je voyais ce matin, j'entendais les témoignages, c'est justement de quelle façon on développe les compétences dans les milieux. Ça nous rejoint. De quelle façon on se donne des moyens pour développer les compétences dans les milieux, pour permettre, pour donner aux communautés, aux villages, des facilités de se développer. J'entendais le vice-président du parc de la Chartreuse qui parlait aussi de partenariat. Au Québec, le militantisme, et on est très militant, Solidarité rurale intervient dans les débats politiques, intervient pour mobiliser les citoyens, intervient pour leur donner une voix forte de ruraux, à ces ruraux-là qui sont répartis partout sur le territoire. On s'est donné une politique nationale de la ruralité. C'est une reconnaissance de la diversité des territoires, des communautés rurales. C'est une reconnaissance qui s'accompagne de moyens. Le premier moyen, c'est un catalyseur dans les milieux, un agent de développement rural. Ça, j'en ai pas entendu ce matin. Mais cet agent de développement rural est chargé de s'assurer d'établir les partenariats entre les communautés. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu ce matin, c'est que les partenariats, ici comme chez nous, ils sont essentiels. On développe aussi à même la politique nationale de la ruralité, la capacité de prise en charge, le développement de compétences dans le milieu ou qui viennent rejoindre le milieu. Parce que les milieux ruraux sont des milieux qu'on choisit comme milieu de vie. On ne les choisit plus parce qu'il y a un emploi, on ne les choisit pas parce que c'est là qu'il y a de l'activité, ça peut être parce que ce sont nos racines, mais on choisit un milieu de vie. Et ces compétences-là permettent aussi qu'on fasse de l'expérimentation et de la recherche dans nos milieux, que ce soit les gens du milieu à développer leurs compétences, qui fassent l'expérimentation et la recherche de façons de faire innovantes, qui leur ressemblent, qui s'appuient sur leurs différences pour permettre d'avancer, d'évoluer comme village, comme communauté. Ça s'accompagne également d'une enveloppe, d'un budget. Le budget, on l'appelle le pacte rural. Il est signé entre le gouvernement et les collectivités, pas seulement les municipalités, les villes, les villages, mais les municipalités régionales de comté qui regroupent plusieurs villages qui traduisent le plus fidèlement possible les territoires d'appartenance. Et rien dans le pacte rural ne dit, n'impose, ne prescrit la façon dont les sommes d'argent devront être utilisées. C'est le milieu qui détermine de quelle façon il pourra utiliser ces sommes d'argent. Alors, on développe des compétences, on facilite les partenariats, on introduit les expérimentations et la recherche sur le terrain, dans les milieux. Vous le savez déjà, le partenariat et le développement, l'apport de compétences dans les milieux, ça a été démontré ce matin, c'est gagnant. Mais la recherche terrain, la recherche dans des petites organisations, l'expérimentation directement dans les milieux et en tirer des leçons, la recherche observation, ça, j'ai pas entendu ça. Et ça, c'est peut-être une grande différence.
C'est, comment dirais-je, évidemment, c'est intéressant d'avoir ce renvoi d'image que vous nous donnez, parce que nous sommes tellement enfermés dans nos réalités que des parcours qui ont été vécus finalement, le rapport de civilisation au sol dans un pays comme le vôtre, c'est quand même assez stimulant. Il faut dire sans doute que, et ça c'est important pour sol et civilisation, que ce dialogue avec des expériences de cette nature est aussi fondamental pour ne pas nous enfermer trop dans nos pesanteurs historiques et hexagonales si l'on veut débloquer un certain nombre de comportements et faire évoluer positivement les esprits. Alors, j'ai vu que Dominique Volton...
Mais si vous permettez, je m'excuse, si vous permettez, il y a une chose qui est importante, et c'est vrai chez nous, c'est vrai chez vous. Vos leaders, qu'ils soient élus ou qu'ils ne soient pas des élus, mais des actifs, des gens dans vos milieux. Vos leaders, ce sont ceux que vous devez entendre. Parce que ce sont ceux qui vont avoir la capacité d'influencer les organisations et les institutions qui, elles, ne vous écoutent pas, comme ruraux. Au Québec, au Québec comme ici, la plus grande, le plus grand danger, ce ne sont pas les communautés qui se battent pour leur survie, qui se battent pour leur développement. Le plus grand danger, ce sont nos propres organisations et nos propres institutions. Et ce sont leurs échecs que nous vivons. Parce que ces institutions-là ne veulent pas perdre leur petit pouvoir d'influence ou politique.
Quelle est la place de la femme dans le leadership au Québec?
Alors, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait sur une dizaine d'invités en forum, vous appelez des panélistes, des forums, des tables rondes, deux femmes. Au Québec, on aurait vu un peu plus. Mais au Canada anglais, pas vraiment.
Avez-vous une législation sur la parité?
Le Québec, c'est un peu la Gaule de l'Amérique. Alors, on est un peu gaulois. Ça se traduit sur la vision du développement durable, de l'environnement, la préoccupation environnementale, la vision qui nous rejoint bien, les urbains et les ruraux, sur le développement durable. On a aussi une vision qui ne se traduit pas nécessairement ailleurs au Canada sur la parité homme-femme. Mais ce sont des valeurs de société qui sont extrêmement fortes au Québec.
En tout cas, je trouve que les femmes qui se sont exprimées dans ce débat ont quand même assumé leur leadership.